Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Émission spéciale ce matin, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, nous recevons la secrétaire d'État, Sophie Cluzel. 2 ans et demi après sa venue dans l'émission, nous verrons ce qui a avancé, les reculs, les promesses tenues et non tenues, coup de projecteur sur la politique du gouvernement en matière de handicap, visible et non visible, où en est l'inclusion des personnes en situation de handicap, à l'école, au travail, dans la vie sociale, dans les médias, comment les rendre encore plus visible dans tous les pans de la société, quelles sont les mesures d'accessibilité au logement, comment les aidants sont-ils aidés, comment lutter contre les discriminations au travail notamment, comment améliorer la situation des handicapés en manque de ressources et sous le seuil de pauvreté, et puis nous verrons comment les personnes en situation de handicap vivent la crise sanitaire et économique. Sophie Cluzel attend toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main vous fasse. En fin d'émission, vous entendrez la chronique Pas son genre de Julia Foyce, qui a également des questions à poser à la secrétaire d'État. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Sophie Cluzel.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État aux personnes handicapées depuis 2017. Je rappelle que dans votre vie personnelle, votre fille Julia est atteinte d'une trisomie 21. Elle est aujourd'hui âgée de 25 ans. Vous êtes venue dans cette émission en mars 2018. Nous avions reçu à l'époque une avalanche de questions. C'est d'ailleurs l'émission de Grand Main vous fasse qui avait reçu le plus grand nombre d'appels en 5 ans d'émission. Un mot peut-être d'abord sur le président Giscard d'Estaing qui vient de mourir. Sophie Cluzel.
Grand président, très réformateur, et je rappelle à vos auditeurs que c'est lui qui a posé les premiers principes d'une politique publique sur le handicap avec la grande loi de 75 portée par Simone Veil. C'est lui aussi qui a fait le droit de vote des jeunes à 18 ans. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un an et demi, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui et je lui avais parlé du projet du président Macron de pouvoir redonner le droit de vote aux personnes handicapées majeures protégées sous tutelle, que le handicap ne soit plus une exclusion justement sur ce droit de vote. Nous avions longuement échangé, un très grand président, et je rends vraiment hommage à son septennat et bien sûr je transmets toutes mes condoléances à sa famille.
Alors Sophie Cluzel, quand on parle de personnes en situation de handicap, de qui parle-t-on exactement? 12 millions de personnes sont concernées avec des situations très variables. Et parmi ces 12 millions de personnes, il faut inclure le handicap visible et invisible. On l'oublie trop souvent.
80% des handicaps sont invisibles. Quand vous avez un handicap psychique, même une surdité, c'est invisible. Des maladies chroniques invalidantes, 12 millions de personnes avec des situations extrêmement variées. Et 10 millions d'aidants, les rappeler, parce que ces millions d'aidants sont un pilier de la société. À un moment donné, on accompagne un enfant handicapé ou une personne âgée en perte d'autonomie. Ce sont donc plus de 22 millions de Français qui sont concernés par le handicap. C'est un Français sur trois. C'est pour ça que votre émission fait autant de succès, parce qu'elle intéresse tous les Français sur la situation de handicap.
Quel est le cliché qui vous agace le plus quand on parle de handicap?
Souvent, on dit handicap égale grande vulnérabilité. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Le handicap est une situation particulière. Et à nous, justement, de devenir inclusif, cette société inclusive, c'est de mettre les compensations nécessaires pour la pleine participation des personnes. Et puis, ce qui m'agace beaucoup, c'est quand les personnes doivent reprouver leurs droits sans arrêt. C'est pour ça, et je sais bien de quoi je parle, que nous avons voulu, depuis 2 ans maintenant, avoir des droits à vie. C'est extrêmement important. Cette confiance qu'on a, non, une personne en situation de handicap n'a plus à reprouver qu'elle est toujours aveugle, trisomique, doublement amputée, pour avoir accès, par exemple, à son allocation adulte handicapé. Ça, c'est vraiment très important. Et dès que je suis arrivée, j'ai voulu vraiment simplifier la vie des personnes, parce qu'on l'avait complexifié à souhait. Donc, rendre plus facile le parcours, l'accès aux droits, et tout simplement aussi avoir cette participation pleine et entière à tous. Vous l'avez très bien évoqué, vie sociale, vie culturelle, vie sportive, mais bien sûr accès à l'école et à l'emploi. Donc ce que les personnes handicapées veulent, c'est tout simplement qu'elles aient le même accès de tous à tout.
Question institutionnelle, pourquoi votre secrétariat d'État est-il rattaché au Premier ministre et non au ministère de la Santé ?
Nous avons fait sortir les personnes handicapées du ministère de la Santé. On les regardait comme des objets de soins. Ce sont des sujets de droit. Et c'est un impact extrêmement important et transformateur des politiques publiques que nous portons. Quand je dis nous, c'est l'ensemble du gouvernement. C'est bien pour ça que Jean Castex a tenu à avoir un comité interministériel du handicap, pas plus tard qu'il y a 15 jours, pour réaffirmer que le handicap, c'est l'affaire de tous. À l'école, à l'emploi, à la culture, au sport, partout, les ministres sont en charge de la politique du handicap. Et c'est ainsi, le placement auprès du Premier ministre est vraiment un levier de transformation de la société.
Une question d'actualité. Les Français vivent une grave crise sanitaire, économique, sociale. Beaucoup de personnes en situation de handicap sont fragilisées par cette situation. Votre constat ?
Déjà, mon action. Dès le confinement, premier confinement, nous avons été à leur côté. Nous avons donné des dérogations pour qu'elles puissent supporter justement ce confinement. Au deuxième confinement, nous avons vraiment voulu que tout reste ouvert, toutes les structures restent ouvertes, qu'il n'y ait pas de perte d'acquis, que les rééducations puissent se poursuivre. Et au-delà de la crise sanitaire, moi ce qui m'importe, c'est la crise économique et la répercussion sur elle. Je ne veux pas que les personnes handicapées soient la variable d'ajustement sur les politiques d'emploi. Donc nous avons mis le paquet pour avoir des aides à l'emploi pour les employeurs, pour avoir 4000 euros d'aide à l'emploi direct, 8000 euros sur l'apprentissage, pour vraiment travailler sur le recrutement. En période de crise, il y en a quand même, et surtout le maintien dans l'emploi.
Bonjour Franck Serret, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste à Faire Face, le magazine pour mieux vivre le handicap. Vous allez m'accompagner tout au long de cette émission. Une première question liée aux ressources des personnes en situation de handicap.
Oui, bonjour Madame Cluzel.
Bonjour.
Vous savez qu'une des revendications très fortes des personnes handicapées, c'est la question de la dépendance au conjoint. La dépendance qui se fait avec l'allocation du handicapé, puisque le montant de cet AAH dépend des ressources de leur conjoint. Quelle est votre position sur ce sujet-là?
Alors peut-être rappeler aux téléspectateurs que l'allocation adulte handicapé est une allocation qui a été fortement revalorisée puisque nous sommes passés de 800 euros à 900 euros par mois pour les personnes en situation de handicap. C'est plus d'1,1 million de personnes qui touchent cette allocation et c'est surtout un investissement de 2 milliards pour le gouvernement dans ce quinquennat. C'était une promesse du candidat Macron, elle est tenue par le président de la République, c'était très important. Comme toute allocation, elle est conjugalisée, c'est-à-dire que les revenus des conjoints sont pris en compte. Mais en revanche, nous tenons compte de la situation du handicap. Parce que d'abord, le plafond est supérieur à toutes les autres allocations, le RSA par exemple. Et surtout, il y a un abattement de 20% du conjoint pour pouvoir justement prendre en compte la situation de handicap. Donc nous tenons déjà compte et de la situation de handicap et, si vous voulez, de la possibilité d'avoir des abattements supplémentaires.
Franck Serret.
Mais... vous êtes bien d'accord que ça crée une situation de dépendance de la personne en situation de handicap par rapport à son conjoint. Dépendance qui est contraire au principe des droits que vous défendez. Enfin, je veux dire, le droit à l'autonomie. Et là, dans ce cas-là, on n'y est pas.
Alors, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Si nous supprimions ça, il y aurait des perdants aussi. Parce qu'on a trop souvent tendance à penser que c'est la personne en situation de handicap qui ne travaille pas. Or, quand c'est elle qui travaille et son conjoint qui ne travaille pas, elle est protégée par cette conjugalisation. Donc, il faut vraiment aussi voir l'ensemble du spectre. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir surtout redonner du travail aux personnes en situation de handicap et donc favoriser leur retour à l'emploi pour qu'elles puissent vivre dignement de leurs revenus du travail.
Alors, le montant de l'allocation adulte handicapé s'élève à 902 euros par mois. Cela reste sous le seuil de pauvreté. Vous le disiez tout à l'heure, un comité interministériel du handicap s'est tenu le 16 novembre dernier. Et le président du collectif handicap, Arnaud de Broca, déplore n'avoir entendu aucune annonce sur la pauvreté. La précarité, il le rappelle, c'est le lot quotidien de beaucoup de personnes handicapées. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors, je lui réponds que nous avons déjà, si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'importe, c'est que les personnes puissent vivre de leur travail. Donc, la reprise de l'emploi, c'est pour ça que nous avons un plan de relance fléché vraiment sur les aides à l'emploi, très important. Et puis, la situation de handicap, c'est aussi, bien sûr, l'allocation du handicapé, mais nous tenons compte aussi de la situation de handicap, avec une prestation de compensation du handicap qui est attribuée justement pour compenser cette situation de handicap. Cette prestation de compensation du handicap, nous l'avons encore améliorée. Nous l'ouvrons à des situations différentes. Nous travaillons justement sur l'accessibilité de cette prestation pour le handicap psychique, qui était très mal reconnu. Et donc j'ai lancé un groupe de travail qui va me donner certainement des propositions durant cette année pour améliorer cette prestation. Donc tenir compte aussi de la situation, et ce sont des allocations complémentaires.
Franck Serret, vous aviez une question sur les droits à vie.
Oui, concernant les droits à vie, effectivement c'est une très bonne chose d'aller vers les droits à vie, mais on voit que nombreuses maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, qui sont le guichet unique auquel les personnes handicapées s'adressent, ces MDPH, beaucoup traînent des pieds. Si on regarde les données, on voit que dans de nombreux départements, on est à 20% seulement sur l'année 2020, 20% seulement des droits qui ont été attribués à l'AAH pour des personnes qui pourraient prétendre aux droits à vie, seulement 20% sont des droits à vie. Ce qui n'est pas une fatalité, puisque d'autres départements sont bien mieux placés, avec des taux qui peuvent aller jusqu'à 80%. Comment ça s'explique de telles disparités? Je veux dire, il n'y a pas une telle disparité quand même entre les personnes handicapées, entre les départements. C'est vraiment une question de politique départementale.
Petite précision, avant février 2019, tous les trois ans, les parents ont demandé aux parents d'établir un dossier pour prouver que leur enfant était trisomique, autiste, paraplégique, sourd, qu'il l'était toujours, ce qui était assez honteux, Sophie Cluzel. Hein.
Bah merci beaucoup Franck Seret pour cette question parce que c'est mon mantra, simplifier la vie. C'est bien pour ça que j'ai le 15 octobre dernier mis en place le baromètre des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées, parce que je suis en copartage avec les départements sur cette responsabilité de la politique publique. Et donc nous avons maintenant une vision sur tous les départements, des droits à vie, des délais de traitement des dossiers, avec des objectifs très précis, avec l'État qui vient à côté des départements pour améliorer, parce que vous avez raison, moi je suis la ministre de toutes les personnes handicapées, où qu'elles soient, dans tous les territoires. Et donc c'est inacceptable d'avoir des écarts comme ça, de 3 mois à 12 mois pour les délais de traitement, ou de 20% d'octroi des droits à vie à 80%. Donc nous travaillons avec les départements pour améliorer en équité cette réponse sur les délais et sur les droits à vie.
Alors l'une de vos ambitions, Madame la Ministre, c'est qu'advienne une société réellement inclusive. La grande loi de 2005, impulsée par Jacques Chirac, instituait l'égalité des chances, la citoyenneté, la participation des personnes en situation de handicap à la vie du pays. Quel bilan 15 ans après la promulgation de cette grande loi?
Alors ça serait difficile de vous faire tout le bilan. Nous en avons fait un lors de l'anniversaire, le 11 février dernier, en présence du président de la République à l'Élysée, avec l'ensemble des associations, des personnes, des administrations, lors de la conférence nationale du handicap. Il y a des avancées très importantes sur les droits des personnes, sur justement leurs revenus, avec cette augmentation de l'allocation adulte handicapé. Là où nous avons encore des efforts à faire, c'est certainement sur l'accessibilité physique des bâtiments. Les transports s'améliorent, évidemment pas le métro de Paris, je le sais. Nous avons aussi des améliorations sur l'école inclusive et l'entreprise inclusive, les deux chantiers fondateurs pour la pleine participation des personnes en situation
de handicap. Mais de façon générale, on le sait, les personnes en situation de handicap sont restées invisibles dans l'espace public, dans la vie sociale, médiatique. Avez-vous l'impression en 2020 que cette cape d'invisibilité est en train de se déchirer?
Elle se déchire et c'est l'affaire de tous. Je voudrais vraiment dire que c'est l'affaire de chaque citoyen français de prendre conscience que les personnes handicapées sont avec elles, vivent avec elles et qu'elles leur fassent toute leur place. Et ça, c'est très important. Pourquoi ça se déchire? Parce que moi, je crois beaucoup à apprendre ensemble et travailler ensemble. C'est sur les bancs de l'école qu'on est en train de changer le regard que l'on porte sur les jeunes, cette jeune génération. Mais on ne va pas entendre une génération pour que ça change. Donc il faut accélérer cette libre circulation, cette parler des handicaps invisibles, très important, 80% des handicaps invisibles, voir les personnes dans les médias. Là, on est très loin du compte, on en reparlera certainement, très loin du compte. Donc voilà, et donner la parole aux personnes. Ça, c'est très important. Elles sont expertes dans beaucoup de domaines, il faut qu'on puisse les entendre et les voir.
Il y a une personne experte avec nous, Mickaël Jérémiaz, bienvenue. Bonjour dans l'émission, vous êtes entrepreneur, ancien champion paralympique, quadruple médaillé en tennis, porte-drapeau aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Vous êtes président et cofondateur de l'association Comme les Autres. En quelques mots, quelle est la mission de votre association, Mickaël Jérémiaz?
Bonjour à tous, bonjour Sophie. Il y a une dizaine d'années, on a créé cette association pour accompagner des personnes handicapées, comme moi, victimes d'accidents de la vie, dans leur parcours de reconstruction. La réalité, c'est que je me suis rendu compte dans 20 ans de vie en fauteuil que j'appartenais à une minorité qui était la plus discriminée dans notre pays depuis 3 ans, selon le rapporteur des droits. Et donc, après avoir vécu des années finalement assez privilégiées en tant que sportif de niveau, j'ai voulu, avec ma femme et mon grand frère Jonathan, mettre en place une structure qui permettrait à des personnes handicapées d'avoir une vie, tout simplement une vie sociale épanouie.
Alors je rappelle tout à l'heure, il y a juste... Oui. Non, je rappelle juste qu'au début des années 2000, à l'âge de 18 ans, vous êtes victime d'un grave accident de ski, vous vous retrouvez en fauteuil, et vous vous battez pour l'autonomie. Mais exemple concret, comment devenir autonome quand on a du mal à se déplacer en bus ou en métro? Vous racontez souvent cette anecdote, enfin, ça vous arrive assez souvent, qu'un chauffeur de bus vous refuse la montée dans son véhicule en voyant que vous êtes en fauteuil.
Effectivement, l'autonomie, c'est un enjeu essentiel. Alors l'autonomie, pas uniquement en rapport au travail, mais simplement l'autonomie dans la capacité à se déplacer. Vous parliez des transports il y a quelques minutes, c'est un enjeu fondamental, et pas uniquement le métro parisien, qui aujourd'hui est scandaleusement toujours inaccessible. Mais la réalité, c'est que oui, il m'est arrivé plein de fois, et pourtant je suis assez débrouillard dans mon fauteuil, mais d'être refusé par un chauffeur de bus qui serait pas forcément capable de le faire, ou parce que soi-disant le bus est plein, ou alors avec des taxis. avec des taxis qui seraient pas à l'aise avec le fait de prendre une personne en fauteuil. Donc oui, aujourd'hui, et je reprends les mots de la ministre, l'enjeu, c'est évidemment le gouvernement doit faire son travail. C'est pour ça qu'on les élit, c'est-à-dire que on veut s'assurer d'une société juste, égalitaire, équitable, mais c'est un sujet commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une responsabilité collective, évidemment, les associations font un travail considérable, les entreprises. Moi, le constat que je fais sur le terrain, parce que je travaille beaucoup auprès des entreprises, c'est que en période de crise, on est quand même relégué toujours en bas de la pile. C'est-à-dire que les bonnes intentions qu'on a pu entendre ces dernières années, d'un taux d'emploi plus important, et pas uniquement fixer les 6% d'obligation d'emploi, mais même au-delà, ben en fait, quand il y a une période de crise, le handicap, on a tendance à le mettre de côté. Et c'est assez inquiétant, parce que c'est une période qui dure. Cette crise sanitaire, on n'en est pas encore sorti, et donc c'est un point d'alerte important de se mobiliser tous ensemble pour une plus juste visibilité et tout simplement un accès à la citoyenneté pleine et totale.
Votre question à la ministre, Michaël Jérémiaz.
Pas plus qu'une question, parce qu'elle connaît mes questions et on se connaît, on échange régulièrement sur tous ces sujets, on a évidemment des combats communs. Non, c'est de continuer à s'assurer de bien comprendre que l'enjeu, c'est pas juste un enjeu de mettre en place des politiques parce qu'on y croit, et moi je la crois évidemment très engagée, très sincère, mais c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Et quand on parle de 1975 comme la première loi sur le handicap, quand on parle de 2005 et 15 ans plus tard du fait qu'il y a une application pas suffisante de cette loi, la réalité c'est que les personnes handicapées n'ont qu'une seule vie. Et que chaque année, chaque journée qui passe où on n'a pas les pleins droits, on n'a pas accès à la citoyenneté et à ce que la vie a à nous offrir, et ben ce sont des journées et des années de vie perdues. Et donc il y a urgence. Et qu'en fait, il faut continuer plus que jamais à investir. Et on manque d'argent sur ces sujets-là. C'est aussi un problème d'argent. Et qu'il faut avoir ça bien en tête. Qu'il y a une urgence pour ces 12 millions de personnes handicapées.
Sophie Cluzel.
Bien sûr qu'il y a une urgence. Et là, je reprends ma casquette de maman. J'en ai une à la maison qui me le rappelle tous les jours qu'il y a cette urgence. Donc, bien sûr qu'il y a une urgence. C'est pour ça qu'on baisse pas les bras. C'est pour ça que le Premier ministre a mobilisé l'ensemble du gouvernement pour le 4e comité interministériel du handicap, le premier sous la présidence de Jean Castex, pour dire qu'on ne recule devant rien. On ne baisse aucune ambition. Et au contraire, qu'on avance. Et qu'on avance encore plus vite. Donc, sur tous les sujets, on n'a pas parlé du numérique, l'accessibilité numérique avec Amélie de Montchalin, mais sur cet accès à l'école, sur cet accès à l'emploi. Et bien sûr qu'il faut accélérer, et il n'est pas question que la crise nous ralentisse, et c'est ça qu'a voulu dire Jean Castex et l'ensemble du gouvernement. Non, la crise ne sera pas justement cette variable d'ajustement sur le handicap.
Tiens, Michaël Jérémiaz, avant de nous quitter, quels sont les clichés qui vous agacent le plus quand on évoque le handicap ?
Bah, la dépendance, l'incapacité, la vulnérabilité, la maladie. Je suis ravi qu'aujourd'hui le secrétaire d'État chargé des personnes handicapées soit plus rattaché au ministère de la Santé. On n'est évidemment pas qu'un sujet de santé, bien loin de là. Et donc voilà, c'est beaucoup d'ignorance. Vous savez, le sujet profond aujourd'hui, on a peur de ce qu'on connaît pas. Et donc évidemment, il y a l'enjeu de la visibilité des personnes handicapées. C'est qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est une personne handicapée, on ne sait pas ce qu'elle vit au quotidien. Et il y a une telle diversité qu'en plus, essayer de résumer à une généralité, ça n'aurait aucun sens. Mmh. Donc oui, il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut recréer une sorte de pacte social commun où voilà, on apprécie à nouveau la diversité de notre société et d'y adhérer. Aujourd'hui, c'est un vrai challenge, et là pour le coup un vrai challenge de présidentiel ou gouvernemental, c'est d'arriver à fédérer tous les Français, peu importe leurs conditions, leurs origines, leur genre, et c'est un vrai sujet aujourd'hui en 2020 en France.
Et moi, j'ai besoin de gens comme Michaël. C'est vrai qu'on se connaît bien depuis très longtemps. J'ai besoin d'avoir des rôles modèles comme ça, qui tout simplement poussent les portes et nous disent stop, là, allons-y, fonçons, parce qu'il n'y a plus le temps d'attendre. Et surtout, travailler avec les personnes handicapées. Ça, c'est très important, parce que c'est elles-mêmes qui nous disent quelles sont les solutions pragmatiques. Il y a des grandes lois, c'est bien, mais l'application des lois, c'est encore mieux, et d'être dans le pragmatisme, c'est encore mieux.
Merci beaucoup, Michaël Jérémiaz, président et cofondateur de l'association Comme les Autres. Allez, vous pouvez poser toutes vos questions à la secrétaire d'État Sophie Cluzel au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière, Claire Destacan, Julien Macarez et Manon Cancé. À la réalisation, Stéphanie Texier. À la technique, Elisabeth Collet et Anne-Laure Cochet. Et je vous propose d'écouter Jacques Higelin.
Ce qui est fait est écrit, c'est comme ça, c'est la vie. 24 24,90. Ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. C'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait de la tête aux pieds. Le long de la voie lactée, le long de la voie lactée. Soleil de plomb dans la nuit noire, je me sens comme un lion dans un square. C'est la vie, c'est le traquenard. De l'aube jusqu'au lendemain matin, j'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie. Je suis papa. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'au cou pour le genre de petite beauté qui vous ligote au pied de son berceau? Y'a tant de folie et trop de misère, tout ce qui a été dit reste à faire, c'est comme ça. Mais pourquoi on laisse tourner le monde à l'envers, sans prendre l'air, sans se donner le temps, leur tourner à l'endroit où il fait bon vivre pour la fleur du genre humain, celle qui a besoin d'être arrosée. Tous les jours, comme la pluie, belle des roses de l'amour, comme le plus beau.
Jacques Higelin, ce qui est dit doit être fait.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Ce qui est dit doit être fait, ça a été choisi totalement au hasard, Sophie Cluzel. Émission spéciale ce matin, il est 10h29, nous recevons la secrétaire d'État aux personnes handicapées et qui attend vos questions au 01 45 24 7000. Tiens, avec nous, Julien Bisson. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1 avec cette semaine à la une, Déconfinons le handicap. Un numéro passionnant avec notamment un beau texte du rappeur et écrivain Gringe, je ne sais plus comment on dit, mon cher Julien Bisson.
Gringe.
Et vous publiez également un beau texte de l'anthropologue Charles Gardou, professeur à l'université Lumière Lyon 2, hein, parmi les interventions dans ce numéro.
Oui, oui, tout à fait. Le Charles Gardou, anthropologue qui est spécialisé dans les questions liées au handicap et qui nous amène à déconstruire notre regard sur le handicap en rappelant comment il peut être malmené par plusieurs ennemis, comme l'illusion d'une prétendue normalité, qui est fabriqué justement pour désigner les anormaux, la particularisation, la tendance aussi à l'essentialisation qui ferait en sorte que on penserait que tous les aveugles, tous les trisomiques, tous les hémiplégiques se ressembleraient derrière une même bannière. En fait, il explique comment il faut réussir à lutter contre l'écueil de notre regard qui voit de la différence là où on était. Il y a de la pluralité, qu'en réalité nous sommes tous issus de la diversité et qu'il faut retrouver cet universel.
Alors vous avez une question à Sophie Cluzel, Julien Bisson.
Oui, Madame Cluzel, vous avez rappelé tout à l'heure qu'un Français sur trois était concerné par une situation de handicap. En quoi le fait de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, de faire évoluer notre regard porté sur elles, peut-il être bénéfique pour l'ensemble de la société ?
D'abord, permettez-moi de saluer le 1 et vraiment le travail qu'Éric Fautorino a fait sur cette édition parce qu'elle donne la parole et elle nous fait voir le handicap sous beaucoup d'angles. Vous avez cité Charles Gardou, mais il y a aussi Grand Corps Malade, il y a aussi les chefs d'entreprise engagés, je pense à Yann Bucaille, je pense à Maïs Kanzler sur l'habitat. On voit bien que le handicap touche tous les pans de la vie et que donc c'est l'affaire de tous. Alors je pense que travailler sur cette société inclusive, tout simplement, c'est faire sa place à l'autre, quelle que soit en effet sa singularité. C'est ça qui nous pousse à agir. Et bien trop souvent, depuis trop longtemps, on a fait une politique à part. On a fait une politique à part, on a voulu éduquer les enfants à part, on a voulu les faire travailler à part. Et donc c'est ça qu'on est en train de changer. Et c'est en poussant les murs partout, en faisant leur place aux personnes en situation de handicap, avec l'expertise des experts. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin des experts. Non, nous avons besoin des associations expertes justement dans l'accompagnement pour faire comprendre comment fonctionnent certains types de personnes qui ont des difficultés de communication, de compréhension ou tout simplement de mobilité aussi. Mais comme vous l'avez très justement dit, une variété de situations de handicap qui fait que c'est complexe. Et puis rappelons que 80% des handicaps sont invisibles, d'où cette mécompréhension parfois de la situation elle-même que la personne vit au quotidien.
Merci Julien Bisson. Déconfinons le handicap, c'est à la une de l'hebdomadaire, le 1 que l'on peut lire évidemment en kiosque. Et nous recevons Valérie Benotti. Bonjour Valérie Benotti.
Bonjour, bonjour Madame Cluzel.
Vous
bonjour.
Êtes présidente de l'UNAPI Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le principal mouvement associatif français, l'UNAPI, qui regroupe 550 associations partout en France. Quelles sont les principales missions de l'UNAPI, Valérie Benotti?
Alors les principales, d'abord moi je me présente, je suis aussi avant tout maman d'une grande adulte qui est autiste et polyhandicapée, qui a 31 ans et donc c'est à ce titre-là que je représente aussi les familles et tout le handicap invisible, mais en tout cas qui est le lourd handicap qui a besoin d'être défendu beaucoup. Et d'abord je tiens à remercier Madame Cluzel pour avoir fait beaucoup pour les avancées qui ont eu lieu, parce que effectivement nous sommes dans l'inclusion, mais aujourd'hui quelles sont nos demandes en tant que parents, en tant qu'UNAPI? C'est bien que toutes les personnes en situation de handicap soient reconnues comme telles, y compris tous ces handicaps lourds avec une moyenne et grande déficience intellectuelle, qui ont besoin d'accompagnement expert, qui ont besoin de temps pour apprendre, voilà, et qui puissent faire partie de la société, comme il a été décrit jusqu'à maintenant, il n'y a aucun souci de ce côté-là, au contraire. Quel est le parent? Quelle est la personne handicapée qui souhaite être à part? Je crois pas l'avoir entendu nulle part. Et il me semble que c'est vraiment le cœur de ce que l'on défend tous les jours ici à l'UNAPI en tant que parent et en tant que représentant gestionnaire des associations.
Alors vous avez une question sur l'inclusion des personnes polyhandicapées ou lourdement handicapées.
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir fait moi-même l'expérience par rapport à ma fille, qui est en établissement depuis 10 ans par rapport à son accompagnement complexe, au bout d'un moment, on a besoin de... Elle a fait sa demande. Alors, évidemment, elle n'est pas verbale, mais elle le fait comprendre. Elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut. Et elle voulait partir en habitat, alors habitat inclusif, comme on entend maintenant. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas possible parce que des personnes qui ont des lourds handicaps comme ma fille ont besoin d'une présence humaine 24/24, 24 heures sur 24 heures. Et au niveau financement, on ne couvre pas. On ne couvre absolument pas. Il lui reste un reste à charge beaucoup trop important. Et pourquoi ne pouvons-nous pas, nous, parents, défendre aussi nos enfants, nos adultes qui sont dans des situations comme celle-ci, pour pouvoir les amener dans la vie inclusive que l'on entend? Et c'est valable aussi pour l'école. Alors, beaucoup de choses ont été faites à l'école et fort heureusement, c'est très très bien. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant par rapport à l'accompagnement de tous ces enfants très complexes qui ont des troubles de comportement, qui ont besoin de temps pour apprendre. Et comme l'a dit tout à fait très clairement tout à l'heure Michael Jérémyade, un jour pour une personne handicapée, c'est un jour de passé. Un jour mal accompagné, c'est un jour de passé. Quand on va à l'école, quand on n'a que 2 heures d'école dans la journée, ce n'est pas suffisant. Ces enfants ont besoin de temps pour apprendre. Ils arrivent à 16 ans, ils n'ont pas eu suffisamment de scolarité. Et donc après, on retombe dans des enfants qui n'ont pas eu la chance d'apprendre, comme tout enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, on en est un peu là. Voilà, alors la grande question, c'est... Merci pour toutes les avancées qui ont été faites, mais aujourd'hui, nous, avec nos handicaps, je dirais plus lourds, On a besoin d'aide, on a besoin que vous avanciez aussi, vous mettiez vraiment un accélérateur là-dessus, et on a besoin que des aides humaines expertes puissent être mises à disposition de toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent vivre une vie inclusive comme tout enfant, comme tout adulte.
Sophie Cluzel.
Alors peut-être une réponse en deux temps sur l'habitat, parce que ça c'est très important. Nous avons maintenant la possibilité, depuis le 1er janvier, et je vais le développer, d'avoir une aide à la vie partagée, justement à la hauteur des besoins de la personne, justement pour permettre cet habitat inclusif partagé. C'est quoi un habitat inclusif ? On va le faire simple, c'est une colocation à 5-6 personnes qui ont des besoins, et même des besoins très importants, parce que ça existe déjà pour des personnes qui ont eu des AVC extrêmement lourds et qui sont donc assez dépendants dans les gestes de la vie quotidienne. Pour autant, ce qu'ils ont envie de nous dire, c'est: je veux vivre en cœur de ville, au milieu des autres, dans un appartement comme tout un chacun, et accompagné autant que de besoin. Donc oui, ça va être possible avec cette aide à la vie partagée qui a été votée justement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2021. Et donc, nous allons le déployer avec une mesure vraiment starter très vite. On a identifié 700 personnes qui vont pouvoir bénéficier de ça sur la France entière grâce au travail des associations. Donc oui, quel que soit son besoin d'accompagnement, on peut bénéficier de cet habitat inclusif, et on va le développer parce que c'est comme ça qu'on change le regard sur les personnes. Et sur l'école, très important. J'ai ouvert la première classe pour enfants polyhandicapés au sein de l'école élémentaire, parce qu'il faut que cette grande différence avec des besoins complexes puisse être élevé, éduqué aussi au milieu des autres enfants. Et donc là, qu'est-ce que j'ai entendu ? Une petite fille de CM2 qui m'a dit « Mais ils étaient où ces enfants ? On les avait jamais vus ? Ils étaient invisibles ? Mais c'est super, ils sont extrêmement différents de nous, mais on va quand même apprendre avec eux. » Et madame a très bien dit, Valérie Benaudet a très bien dit « Laissons le temps au temps. » Donc oui, nous voulons développer l'apprentissage pour tout enfant. Tout enfant doit avoir vraiment ces temps d'apprentissage si importants, même ceux qui nous paraissent le plus éloignés de l'apprentissage.
Franck Seré, journaliste à Faire Face, dépressif sur l'habitat inclusif.
Oui, en fait, l'habitat inclusif, effectivement, ça peut être un progrès pour des personnes qui étaient dans un cadre institutionnel, avec des professionnels médico-sociaux, et qui souhaitent aller vers un peu plus de liberté. Mais sur l'aide à la vie partagée, vous nous garantissez que ce sera à hauteur des besoins réels des personnes. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une assistante 24 sur 24, ça couvrira pas ça.
Non, il y aura en plus la PCH individualisée.
C'est quoi la PCH ?
Prestation de compensation d'aide humaine, excusez-moi, ou technique. Donc celle-là, elle sera toujours pleine et entière. Mais en plus, il y a cette aide à la vie partagée pour justement mettre en partage ce besoin de coordination, ce besoin d'animation de cette vie partagée, de cet habitat inclusif. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre.
Nous accueillons Julia Foyce. Bonjour Julia, on vous écoute. Bonjour, évidemment en fin d'émission avec votre chronique Passons Genre. Vous aviez une question à poser. Ouais. À Sophie Cluzel.
Ouais, et en fait, à vous entendre depuis le début de l'émission, je pensais à tous ceux qui nous écoutaient ce matin et qui se disaient, ben moi, ça me concerne pas le handicap, alors je suis touchée par ce que j'entends, je peux être révoltée par moments, mais en fait, c'est pas moi. Et moi, jusqu'à il y a 2 ans et demi, je me disais ça, je voyais les fauteuils dans la rue, parce que je parle que du handicap visible, bien sûr. Je savais qu'on vivait dans une société qui était pas inclusive. Parfois, ça ou pas autant qu'elle le promettait. Parfois, ça me touchait, parfois, ça me révoltait. Mais enfin, je passais à autre chose. Et puis, il y a 2 ans et demi, mon fils, qui allait très bien jusque-là, a eu un très, très grave accident. Et là, je me suis rendu compte de la hauteur des trottoirs, en fait. Et au-delà du fait que la ville n'est pas du tout adaptée à un fauteuil roulant, c'est tout le reste qui n'est pas adapté. Donc, c'est à nous de nous adapter. Aujourd'hui, mon fils, il a 4 ans. Il est rentré en moyenne section à la maternelle parce qu'il s'est bagarré comme un fou. Comme un fou. On a été aussi entouré de professionnels de santé qui ont été très chouettes. Mais c'est à lui qu'il doit cette entrée à la maternelle. Il se trouve qu'il a besoin d'aide. Il peut récupérer sa vie d'avant. Il peut y arriver. Il est doucement, lentement en train d'y arriver. Il peut le faire, mais il a besoin d'aide. Et d'ailleurs, la MDPH a reconnu ce besoin d'aide puisque lui ont été accordées 21 heures d'aide individuelle à l'école. Cette notification, on l'a reçue début septembre. On est fin novembre. Isaac n'a rien. Alors il se débrouille, c'est un petit garçon qui est très volontaire, qui est très autonome, et puis il a une maîtresse qui est super. Mais quand je pose la question au rectorat, quand je demande en fait pourquoi il n'a toujours pas d'AESH avec lui, la seule réponse qu'on me fait c'est « il n'y en a pas ». Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de candidat, donc on ne recrute pas. Vous imaginez bien, et Madame Cluzel vous le disiez tout à l'heure, vous êtes maman d'une enfant qui est porteuse de trisomie, vous imaginez bien que je ne peux pas me contenter de cette réponse-là. Et qu'il y a des dizaines de milliers de parents aujourd'hui à qui on fait cette réponse-là, qui ont dit ben, il n'y en a pas. Mais en fait, cette réponse-là, elle ne peut pas suffire. surtout quand on dit que c'est la grande priorité, que c'est l'une des priorités du quinquennat. Moi, je peux pas m'en tenir là. Je peux pas emmener mon fils tous les matins à l'école en me disant, ben, il y a personne qui peut l'aider, alors qu'il a droit à cette aide. Je précise, c'est pas une faveur, hein. C'est un droit qu'il a. Donc, en fait, ouais, la question que je voulais vous poser, Madame Cluzel, ce matin, c'est, en fait, pourquoi Isaac n'a pas d'AESH aujourd'hui? On est fin novembre.
Alors je vais vous le dire franchement, je suis désolée pour Isaac, hein, ça fait partie des recrutements qui sont en cours. Pourquoi ? Parce que nous avons 110 000 AESH sur le terrain maintenant, hein, ce sont toutes des AESH éducation nationale, et comme dans beaucoup d'endroits, mais c'est pas que les AESH, nous avons des problèmes de recrutement. Je vais pas vous le cacher, je vais pas vous tenir un autre discours, nous avons des problèmes de recrutement aussi dans les établissements médico-sociaux, pour recruter des experts, des psychomotriciens, des orthophonistes. Nous avons un problème pour l'aide à la vie quotidienne aussi des personnes âgées, nous avons un problème pour recruter aussi des AESH. Et malheureusement, ce n'est pas un problème de budget, vous l'avez très bien dit. Les postes se sont ouverts, nous sommes en cours de campagne de recrutement permanent. Donc moi, j'entends très bien et votre colère et de dire que pourquoi c'est Isaac qui paye les pots cassés, ça ne doit pas être l'être. Donc il faut absolument qu'on accélère ces campagnes de recrutement. C'est le cas parce que nous faisons feu de tout bois. Mais, et d'autre part, il faut absolument qu'Isaac puisse bénéficier de son accompagnement médico-social s'il en a dans l'école. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Nous ouvrons les portes de l'école pour que les professionnels rentrent. Je ne sais pas si c'est le cas pour Isaac, mais nous accélérons au maximum pour Isaac. Vous pouvez être sûr que je transmettrai encore au ministre de l'Éducation nationale et nous en sommes tous conscients.
Julia Foyce.
Est-ce que ça n'est pas aussi un problème de valorisation des AESH qui se plaignent beaucoup de n'être pas reconnues, et parce qu'elles n'ont pas de diplôme, pas de formation, et parce qu'elles ont un salaire qui est loin d'être élevé, qui fait que dès qu'on leur propose mieux ailleurs, elles partent?
Alors, il y a beaucoup moins de turnover qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont plus en contrat aidé. Elles sont en contrat éducation nationale, donc avec des CDD de 3 ans, après un CDI potentiel, si elles le souhaitent. Mais surtout, on leur offre plus d'heures hebdomadaires pour qu'elles soient mieux payées. C'est tout l'enjeu, hein, de porter dans le dialogue social, justement, la formation des AESH et leur pérennisation et la sécurisation de leur parcours. Donc ça s'améliore. Encore une fois, vous êtes maman, je le suis, ça s'améliore pas assez vite, en effet.
Julien, on vous retrouve en fin d'émission. Sophie Cluzel, où en est la scolarisation des élèves en situation de handicap à la rentrée 2020?
Alors, c'est une rentrée qui a été... Alors, ça va faire bondir la maman juste avant, mais qui s'est bien passée dans le sens où nous avons 6% de plus d'élèves en situation de handicap. Il y a eu 8000 recrutements de plus, hein, de postes d'AESH. Donc, nous avons aussi cette coopération qui est une réalité avec des équipes mobiles, justement, d'experts comme des psychologues, des rééducateurs et des éducateurs qui se déplacent dans les écoles. Parce qu'en fait, quand on est un enfant handicapé, le parcours scolaire, c'est un parcours qui est partagé, croisé, avec des regards différents. L'enseignant, l'AESH, s'il y a besoin. Je rappelle quand même que la moitié des enfants n'ont pas besoin d'AESH. Selon les types de handicap, accompagnants d'élèves en situation de handicap. La moitié des enfants peuvent aussi avoir une scolarisation sans accompagnant, mais avec des adaptations pédagogiques ou du matériel adapté. Ça aussi, c'est très important, parce que nous avons une variété de situations de handicap, il faut le rappeler. Donc une scolarisation qui progresse jamais assez vite, vos auditeurs l'ont très bien dit, vos interlocuteurs l'ont très bien dit, mais nous accélérons vraiment ce grand service public de l'école inclusive pour que ça soit une réalité pour les parents.
Bonjour Xavier Pierre, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour, bonjour Madame la Ministre, bonjour, merci à France Inter de me recevoir. Voilà, moi ma question, elle est simple et claire, j'espère. J'appelle pas pour me plaindre déjà, parce qu'en général les gens handicapés on se plaint peu, hein. Et puis je voulais remercier aussi de façon générale les mamans, parce que moi si je suis toujours debout, c'est grâce à ma maman depuis que je suis né, parce que j'ai fait un AVC néonatal. Donc ma maman m'a obligé à me battre dans la vie, donc ça aide quand même les mamans, malgré tout. Et puis, ce que je voulais simplement dire, c'était que moi j'ai travaillé toute ma vie, bon, avec le respect ou non des employeurs. Bon, je suis un vieux bonhomme maintenant, hein, 73 ans, mais
on
bon...
On dirait pas.
Comment ?
On dirait pas à la voix.
Ben oui, mais bon... Voilà, enfin, toujours est-il que j'ai été plus ou moins respecté par les employeurs. Vers la fin de ma vie, quelques 6 ans avant ma retraite, j'ai cherché un emploi qu'on m'a proposé entre un employeur et la NPE à l'époque. parce qu'on m'a dit il y a une possibilité pour vous de rentrer en entreprise et d'avoir un partage par rapport au salaire, par rapport à l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur touchait une certaine somme et moi, ça me permettait d'avoir un salaire minimum, c'est-à-dire en gros, c'était de l'ordre de 500 euros. Hein, mais de toucher une compensation de la AAH en même temps. Sauf que le jour où j'ai été mis en retraite, c'est-à-dire 6 ans après, hein, il y a une assistante qui est arrivée à la maison, hein, pour la CAF et qui m'a dit « Monsieur, vous nous devez tant ». Je lui ai dit « Mais attendez, à quel titre ?» Alors je lui ai dit « Mais il y avait un accord ». Oui, mais l'accord n'existe plus. Donc moi, depuis 2017, je rembourse tout ce que j'ai pu toucher, hein, par cet accord qui n'existe plus, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une retraite de 600 euros par mois. Voilà, c'est tout. Et ma réflexion, elle est simple. Pourquoi, et je suis pas tout seul dans ce cas-là, hein, pourquoi, quand on a travaillé en tant que personne handicapée, hein, et que du jour au lendemain, tout d'un coup, parce qu'on est en retraite, le handicap disparaît et on n'a plus de compensation, on n'a plus rien.
Sophie Cluzel.
Bon, il faudrait que je regarde très précisément votre cas personnel. Moi, je m'engage à pouvoir regarder avec vous hors antenne. On me donnera vos coordonnées parce que c'est un peu technique ce que vous m'avez décrit. Ça me paraît assez ubuesque, en effet, hein, qu'on vous demande de rembourser des sommes alors que c'était votre salaire. Donc, il faudra qu'on regarde cela de près. Au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir travailler pour les personnes en situation de handicap, que le retour au travail soit gagnant-gagnant. Hein, et donc, que justement, pouvoir cumuler l'allocation adulte handicapé et un salaire quand on a une faible qualification, ça soit possible et ça soit visible, qu'on puisse se projeter sur quand je décide justement de reprendre un travail. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir travailler à la reconversion professionnelle pour éviter justement de perdre son travail quand un accident survient. Parce que, vous l'avez dit, c'est le handicap, c'est aussi des accidents. Vous, c'était à la naissance, mais 80% s'acquiert au cours de la vie, le handicap. Donc, il faut qu'on travaille aussi avec les entreprises sur le maintien dans l'emploi et l'accompagnement pour éviter la désinsertion professionnelle et le licenciement. Je rappelle qu'il y a 2 fois plus de personnes handicapées au chômage et qu'elles ont justement, pour 70% d'entre elles, celles qui sont au chômage, elles ont une formation inférieure à bac ou bac, à peine bac. Donc l'enjeu majeur, il est là. Comment mettre l'argent du plan d'investissement des compétences dans la formation des personnes handicapées et les maintenir dans l'emploi quand elles en ont un et surtout progresser dans leur emploi. Ce sont des salariés comme tout un chacun qui ont envie d'avoir une progression de carrière.
Merci beaucoup Xavier Pierre pour votre intervention dans cette émission. Franck Seré, Xavier Pierre rendait hommage à sa mère. Vous avez une question sur le forfait parentalité?
Oui, le forfait parentalité, effectivement, donc c'est une aide qui va être mise en place pour les parents handicapés, donc parce que ils peuvent avoir des besoins d'aide humaine s'ils ne sont pas en capacité eux-mêmes, par exemple, de donner le bain à leur enfant ou de l'habiller ou autre. Donc ça, c'est une avancée, effectivement. Mais est-ce que ce forfait parentalité va être vraiment à la hauteur des besoins? On peut vraiment en douter, puisque c'est 1 heure par jour jusqu'aux 3 ans de l'enfant et 30 minutes ensuite. Donc pour des parents qui sont en situation de dépendance assez lourde, enfin 1 heure par jour, c'est clair que ça ne suffit pas. D'ailleurs, dans des départements où ça se faisait jusqu'à présent, il pouvait y avoir plus d'heures. Et donc j'aimerais effectivement que Sophie Cluzel nous explique pourquoi ce choix d'avoir limité à 1 heure par jour seulement le forfait parentalité pour des parents.
Sophie Cluzel.
Et deuxièmement.
Alors, c'est une grande avancée. Oui. Les associations l'attendaient depuis extrêmement longtemps. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Nous avons été sur une forfaitisation pour qu'il soit immédiatement, dès la naissance de l'enfant, qu'on puisse donner ces 900 euros par mois. Les personnes utilisent comme elles le veulent. Ça peut être 1 heure par jour, ça peut être 2 heures, ça peut être pas le week-end, ça peut être sans justificatif. Donc, je répète, 900 euros par mois dès la naissance de l'enfant. Et après, de toute façon, vous êtes parent. Avant d'être parent en situation de handicap, vous avez droit à toutes les aides de la CAF comme en tant que parent. Et rappelez aussi que c'est immédiatement un forfait pour les aides techniques, c'est-à-dire justement comment, par exemple, avoir une table allongée qui monte et qui descend quand j'ai un problème de handicap moteur. 1200 euros à la naissance de l'enfant, 1200 euros aux 3 ans, 1200 euros aux 6 ans de l'enfant. Donc une aide humaine et une aide technique immédiatement déclinable, sans justificatif. Je pense que c'est une grande avancée.
Question, Sophie Cluzel, sur la visibilité des personnes en situation de handicap dans les médias. Encore trop peu de journalistes, d'animateurs, de chroniqueurs à la télé ou à la radio. Coup de chapeau, par exemple, à France 5, quand même, qui met en avant un excellent excellent jeune animateur, Théo Curin, dans le magazine de la santé Allo Docteur. Il est excellent et il ira loin, mais c'est encore trop peu, Sophie Cluzel.
Bien sûr que c'est trop peu. Le baromètre de la CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pardon, fait état de 0,7% de représentation dans les médias. 0,7%, alors qu'il y a près de 10 millions de personnes, 12 millions de personnes handicapées. Donc on voit bien qu'on est très loin de là-bas. Et pourtant, quand on fait des émissions, quand on fait des films, quand on fait des fictions avec le handicap, ça fait un taux d'audience remarquable, parce que le handicap intéresse tout le monde. Donc je dis, n'ayez pas peur, allez-y, foncez, mais surtout, n'utilisez pas le personne handicapée sur leur handicap, mais bien comme des experts. Théo, il parle pas de son, je le connais bien, on était ensemble sur un plateau, il fait le magazine de la santé, Théo, il est l'égérie aussi d'une grande marque, et il porte haut et fort des valeurs extrêmement importantes. Franchement, les personnes handicapées sont des experts dans leur domaine, mais invitons-le comme des experts, ayons des journalistes en situation de handicap, des techniciens de l'audiovisuel en situation de handicap, donc ouvrons les portes des formations pour pouvoir former les personnes.
Bonjour Ada Abdelli, bienvenue.
Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous et vous parler d'audience et donc je suis le 0,7% du CSA. Non, 0,07.
Vous avez co-créé la série courte humoristique Vestiaire sur France 2 dans laquelle vous jouez et la saison 10 est diffusée le samedi à 21h. Vous avez une question à Sophie Cluzel, Ada Abdelli?
Oui, alors moi j'ai plusieurs cibles, donc je vais développer en une heure, je vois qu'on a le temps. Moi je veux d'abord faire un constat. D'abord, vous remerciez Sophie pour le coup de poing sur la table en disant qu'il fallait plus de visibilité pour les personnes en situation de handicap à la télé. Quand on sait l'importance que ça a, et on peut faire le lien avec les jeunes, et c'est-à-dire que se voir à la télé, se reconnaître dans le monde médiatique, c'est aussi avoir sa place dans la vie. Et j'adore cette phrase, comme ça l'aidez-moi. Donc ça, c'était mon premier constat. À France Télé, effectivement, il y a des animateurs télé de plus en plus. Il y a Scotto, il y a d'autres personnes. Il y a Théo, dont vous parliez tout à l'heure. Alors, je lance un appel à Civil, à Radio France. Nous sommes en manque de handicap à la radio. Et on sait que la radio, le physique n'est pas très important. Alors, c'est pas vous qui allez dire le contraire, Ali. Vous qui êtes grand blanc aux yeux bleus, et ça ne s'entend pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a médiatiquement quelque chose de très très fort à faire et on a beaucoup de choses à faire. En fait, être handicapé, comme vous le disiez très justement, n'est pas un métier, c'est un état. Et pour finir sur le côté médiatique, moi, je suis évidemment toujours intéressé quand on m'invite et je parlerai tout le temps du handicap et ça me gêne. Mais je peux aussi parler d'autres choses. Je peux être invité pour parler d'autres choses. Je peux parler d'amour, de gloire et de beauté, par exemple. Mmh. Voilà. Je peux dire les crèmes que j'utilise, etc. De mariage, voilà. D'infidélité, tout ça. Donc, il y a un sujet que je peux aborder.
Sophie Cluzel. Alors, Sophie Cluzel.
Mais il m'a pas posé la question. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors?
Oui, mais parce que vous savez qu'on essaye d'avoir, dès qu'on a un truc, on essaie de tout prendre. Non, ma question, c'est pour rejoindre ce que disait tout à l'heure votre chroniqueuse. Je suis très, très souvent sollicité. Eh oui, je suis le nouveau Che Guevara du handicap. Je suis très souvent sollicité par des parents qui me posent le problème de ce que vous disiez tout à l'heure. Ça a un autre nom, mais nous, on les appelle les AVS. Les assistants de vie scolaire, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et alors, il y a une maman qui me dit, donc je vous pose la question qu'elle m'a posée, pourquoi ne peut-on pas titulariser dans chaque école ou établissement scolaire des AVS déjà formés qui appartiendraient déjà à cette école et qui ne seraient pas obligés de tourner qui seraient là à plein temps, en fait.
Alors, Sophie en fait, c'est exactement vers ce vers lequel on va, avec les pôles d'inclusion d'accompagnement localisés. C'est ce que le ministre a voulu, avoir au plus près des bassins d'école, collège, lycée, des personnes ressources, que sont ces auxiliaires de vie scolaire, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est ça vers lequel on va. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est que c'est pas l'enfant qui attend son AESH, c'est l'AESH qui attend l'enfant à chaque rentrée scolaire. Ça s'améliore. C'est comme ça qu'on déploie vraiment ces personnes ressources qui sont très importantes pour beaucoup d'enfants, mais qu'elles soient justement en poste, en place, et qu'elles soient là en attente justement de l'enfant qui arrive, et non plus l'inverse. On y arrive doucement, ça va pas assez vite, j'ai bien entendu le message.
Tiens, Ada Abdelli, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune qui a son estime de soi en berne à cause de son handicap? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Moi j'ai déjà connu ça, j'ai été jeune moi aussi il y a très longtemps. Mais déjà il y a une avancée avant. Moi quand j'ai grandi dans une école, j'étais dans une école où il n'y avait que des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est fait, c'est l'inclusion, on met des enfants handicapés ailleurs. Ça c'est vachement important, ça aide à prendre confiance en soi pour trouver sa place. Et je reviens sur ce que je disais, la visibilité, si on se voit à la télé, on existe et on a plus confiance en soi. Et moi j'ai envie de dire à ces jeunes, surtout ne laissez pas le handicap guider votre vie.
Ah oui, puis surtout, voilà. Moi je dis toujours, hein, Ada, c'est nul n'est inemployable et allez jusqu'au bout de vos rêves. Hein. Mmh. Qu'on arrête de vous dire que c'est impossible, que vous êtes incapable ou incompétent. Non, c'est tout l'inverse que l'on porte.
Valérie Benotti de l'UNAPI, vous vouliez réagir?
Oui. Alors c'est vrai que, alors je vais être un peu moins, je suis un peu pénible, mais on a des vrais problèmes quand même entre ce qui est proposé aujourd'hui et ce qui se vit sur le terrain. On a un vrai décalage. Alors bien sûr tout prend du temps, mais quand même en tant que parent, bah ça nous emmène des grandes souffrances. Vous l'avez vu, la maman qui comprend pas pourquoi son enfant n'a pas d'AVS et donc voilà n'a pas d'école. Aujourd'hui on a des mamans aussi qui sont obligées d'arrêter leur travail parce que les heures ne sont pas suffisantes et donc elles doivent aller d'un côté à l'autre pour emmener leur enfant, et c'est un vrai souci quand même. Et puis, nous, dans les associations, là, pour revenir aux associations, on se retrouve avec des listes d'attente d'enfants qui ne sont plus acceptés à l'école parce que trop de troubles de comportement ou inadaptés. Et du coup, on a beaucoup de mal à pouvoir les accompagner avec qualité, je tiens à ce mot-là, hein, avec qualité, par rapport à leurs besoins. Et surtout, on va avoir du mal à répondre aux attentes, à leurs propres attentes, parce que les enfants en ont, ainsi que celles des parents. Et puis sur l'adulte, eh bien, on a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, l'enfant devient adulte, et donc comme il n'y a pas suffisamment de logements, il n'y a pas suffisamment de dispositifs, on va dire, de choses qui sont prêtes pour les personnes en situation de handicap avec leur handicap, eh bien, on se retrouve avec des listes d'attente importantes et des parents qui sont obligés de reprendre leur enfant à la maison, leur adulte à la maison, et donc du coup, qui revient sur les dents qui fatiguent, les dents qui vieillissent. Alors, on va donner des aides peut-être financières un petit peu, mais ça va pas compenser. L'adulte, il a besoin de vivre une vie d'adulte. Voilà, pas chez ses parents tout le temps, avec d'autres personnes dans la vie inclusive, avec une association, peu importe, de toute façon, qu'il soit accompagné correctement. Voilà,
merci.
Aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Hein?
Merci beaucoup Valérie Benotti, on vous a bien entendu et je rappelle que vous êtes présidente de l'UNAPI Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'être intervenue dans cette émission. Sophie Cluzel, il nous reste une minute de conclusion. Comment changer le regard de la société sur le handicap au terme de votre ministère dans un an et demi?
Oh, c'est une mission beaucoup plus longue parce que nous partons de loin justement. Et je veux dire juste, tout simplement aux Français qui nous écoutent que chacun peut amener sa pierre à l'édifice. On est tous concernés, tous mobilisés. On peut tous se pousser un peu pour faire la place à la personne en situation de handicap. Tout le monde est responsable de cette société inclusive. Quelle que soit la nature du handicap, même s'il est complexe, et Dieu sait qu'il y en a qui sont très complexes, eh bien tout simplement, regardons la personne, allons chercher cette humanité dont parle Charles Gardou, derrière le handicap, derrière cette étiquette qui porte beaucoup de préjugés et qui classe les gens dans des dispositifs ou des boîtes. Non, ce sont avant tout des personnes, des citoyens qui ont beaucoup à nous apporter.
Merci beaucoup Valérie Benotti, Mickaël Jérémias, Ada Abdelli. On vous retrouve le samedi à 21h sur France 2 avec Vestiaire. Merci Franck Seret, merci beaucoup de m'avoir accompagné ce matin et merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Et je rappelle notamment la une de l'hebdomadaire Le 1, déconfinons le handicap, très précieux à lire en ce moment. Et merci évidemment Sophie Cluzel.
Excellente publication.
Merci Sophie Cluzel d'être venue ce matin. Demain, grand bien vous fasse loisir. On vous dira notamment comment cuisiner avec trois fois rien, avec peu d'ustensiles, avec Nathalie Georges.